Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser, en tout cas dans la première partie de ce cours, au support de nos exercices de copistes, puisque ceci, on va le voir, présente des singularités. Alors, si on retrouve la plupart des matériaux utilisés pour les écritures, enfin les exercices d'écriture documentaire, c'est-à-dire le papyrus, les ostracas, à moindre égard les tablettes, eh bien, il y a deux supports qui se font remarquer. Alors le premier, c'est l'ostracone en calcaire, particulièrement fréquent dans nos exercices, ce type d'ostraca, dans un calcaire qui est typique de la montagne thébaine, est évidemment caractéristique de la rive ouest de Thèbes, où tant d'ermitages et de monastères étaient en activité. Donc il est normal que ce type de support soit bien représenté pour des exercices d'apprentis-copistes qui reçoivent leur formation auprès de moines et s'exerceront ensuite dans des ateliers de copie fonctionnant dans les monastères ou installés dans des ermitages plus isolés. Alors, quant au second matériau, eh bien, il tranche avec le faciès des exercices d'écriture documentaire. Il s'agit du parchemin. C'est là un matériau quasiment inconnu de la production documentaire et dont l'usage se bornait presque exclusivement à la librairie. Vu le prix du parchemin, vous pouvez l'imaginer, ce ne sont pas des feuilles neuves de papyrus qui ont été utilisées par nos apprentis copistes, mais les parties vierges de feuillets mis au rebut, soit que ces feuillets proviennent de vieux livres démembrés, on l'avait vu avec le cas que vous avez à l'écran, soit qu'une erreur du copiste en ait interrompu l'utilisation. Et on peut rattacher à ce dernier cas, la double feuille initiale du codex G67 de la Pierpont Morgan Library, que vous avez à l'écran, qui est connu sous l'appellation de codex Glazier, qui vient de la région d'Oxyrhynchos et qui date du 5e siècle. Vous voyez, c'est un magnifique codex de parchemin. Et la double feuille initiale de ce codex que je vous montre, que voit-on sur cette feuille? On voit qu'un copiste a interrompu le texte qu'il était en train d'écrire. Vous voyez, il s'arrête ici, interrompu le texte qu'il était en train d'écrire, en l'occurrence une version copte du livre biblique des rois. Il s'est interrompu parce qu'il s'était aperçu en arrivant à la 10e ligne de cette page 2, puisque l'autre page, vous voyez, le chiffre 2 est ici. La page 1 est évidemment sur l'autre côté de ce feuillet. Il s'est aperçu en arrivant à cette page 2 qu'il avait oublié un mot au verset 3. Donc il a mis au rebut cette feuille de parchemin, ainsi commencée, où quelqu'un ultérieurement s'est amusé ou s'est exercé à copier dans l'espace laissé vacant dans la partie inférieure quelques lignes de grec. Alors, vous avez cette ligne-là, puis ensuite trois lignes sur lesquelles je reviendrai. La double feuille a été ultérieurement réintégrée au début du codex Glazier, où l'on s'apprêtait à copier les actes des apôtres en copte. Alors, outre les pages de manuscrits obsolètes ou avortés, eh bien, nos apprentis copistes ont utilisé des chutes de parchemin résultant de la taille des feuillets dans les peaux de bêtes. C'est ce que nous avons vu avec les parchemins qui sont maintenant conservés à l'IFAO que vous avez ici. Ce que nous avons vu aussi avec cette languette de parchemin qui vient des fouilles de Nakloun. Et c'est probablement aussi le cas, vous vous souvenez, de ce petit morceau de parchemin qui a servi de renfort à un cahier. On retrouve exactement le même cas de figure avec le papyrus Bingen 26, qui est une languette de parchemin, avec, vous voyez, une séquence en majuscule alexandrine, joliment calligraphiée, datable du 7e siècle. Alors, on est tenté de rapprocher le parchemin Nakloun du fait de la présence d'un alphabet, de sa forme et de ses dimensions. On est tenté de le rapprocher d'un papyrus de la Bodléienne au faciès très proche. Alors, il s'agit d'un coupon de papyrus du 6e siècle de 15 cm, vous voyez, sur 6,5, qui donne le verset 29 du psaume 21, suivi, là encore, d'un alphabet en lettres majuscules, calligraphiées, de alpha jusqu'à oméga, plus les lettres coptes. Alors, l'éditrice de ce papyrus parle d'un texte scolaire ou, à tout le moins, d'un exercice d'écriture. Alors, on a vu aussi que le papyrus de Cologne 175 donnait un court texte en majuscule biblique et en majuscule penchée, très appliqué, là aussi, sur un petit coupon de petite dimension, puisque la hauteur est de 10 cm et la largeur de 13 cm. Donc, à l'instar des chutes de parchemin, nous pourrions aussi avoir des chutes de papyrus, une fois que les feuillets ont été découpés dans un rouleau pour confectionner les codex, et avec les petits bouts restants, eh bien, nos copistes s'exerçaient à prendre les styles d'écriture. Alors, voilà qui finalement nous fait pénétrer à travers ces modestes exercices, qui nous fait pénétrer dans le monde d'un scriptorium avec son cortège d'activités, toutes liées les unes aux autres, la fabrication des codex, la copie des textes et aussi la formation des futurs copistes. Alors, pour être complet, je dois signaler que ces coupons exigus de papyrus comme de parchemin ont pu faire l'objet d'autres interprétations. Alors, regardons de près ce petit fragment. Enfin, ce n'est pas un fragment, il est complet, quasiment complet, de papyrus qui se trouve au musée Pouchkine de Moscou, et que j'accompagne ici d'une édition que je vous propose, que j'ai faite à nouveau frais. Alors, il s'agit d'un petit coupon taillé dans un papyrus arabe. On voit ici les restes d'un texte arabe. D'après, j'ai demandé à mon collègue Naïm Vantigame de dater l'écriture arabe, et il pense que nous serions aux alentours du 9e siècle, ce qui veut dire que ce fragment a été réutilisé à peu près à la même époque. Sur une face, eh bien, on reconnaît ici le nom d'Alexandre, Alexandre le Grand, avec ses deux compagnons, Selpharios et Diatrophée. Et sur l'autre face, eh bien, que trouve-t-on ? Là encore, on trouve un alphabet grec suivi des lettres coptes supplémentaires. L'écriture, vous le voyez, est une majuscule alexandrine très maîtrisée. Alors, serait-ce un exercice de copie ? Le format de timbre-poste, 4 cm sur 4 cm, rend cette hypothèse douteuse. On a pensé qu'il pourrait s'agir d'une amulette. On sait que les lettres de l'alphabet pouvaient avoir une valeur magique, expliquant leur utilisation justement dans les papyrus magiques. On a de nombreux exemples. Le nom d'Alexandre, qui passait lui-même, selon une tradition égyptienne, pour le fils du magicien et pharaon Nectanebo, et le nom de ses compagnons, Selpharios et Diatrophée, grâce auquel Alexandre parvint à surmonter les épreuves mortelles qui les menaçaient d'après le récit de la version copte du roman d'Alexandre dont j'avais eu l'occasion de vous parler il y a quelques années, eh bien tout cela pourrait expliquer qu'on ait pu invoquer Alexandre et ses compagnons sur une amulette. On a proposé la même interprétation pour un coupon de papyrus d'à peu près, de dimension à peu près identique, 5 cm, vous voyez, sur 4,5, qui présente une séquence typique des exercices de copiste, sur lesquels je reviendrai, hein, brachytone, dophylax, etc., sur lesquels je reviendrai à la fin de ce cours. Vous voyez que ce texte est écrit dans une majuscule biblique très soignée, qui est datable du 5e siècle, mais cette amulette a été découpée, comme vous le voyez, a été découpée dans un coupon qui était un peu plus large, puisque vous voyez ici que la ligne supérieure a été tronquée. Donc ce qui a conduit à la disparition donc, de toute la partie supérieure. Autrement dit, la fonction d'amulette, si toutefois c'est vraiment une amulette, est secondaire par rapport à celle du coupon initial, hein, qui comportait d'autres lignes et qui pouvait très bien être un exercice ou un modèle de copiste. Alors, quoi qu'il en soit, l'interprétation de ce coupon comme une amulette, c'est un fait, a été avancé, hein, par certains savants pour expliquer certaines des languettes de parchemin que je vous ai présentées. Alors, nos coupons de petite taille, hein, couverts d'un texte en écriture très soignée, pourraient aussi être interprétés comme des signets. C'est le cas de ce parchemin dont l'éditeur, Jean Lennartz, pensait qu'il s'agissait justement d'un signet. On a aussi, pour certains de ces coupons, proposé d'y voir des échantillons d'écriture que les copistes donnaient à leurs potentiels commanditaires pour leur montrer qu'ils étaient capables d'écrire dans une belle écriture calligraphique. Bref, vous voyez, il s'agit de textes qui n'est pas toujours si facile de mettre sous leur vrai jour. Mais si l'on met de côté le cas du papyrus Pushkin, le petit timbre-poste, hein, il me paraît plus satisfaisant de les mettre en rapport d'une façon ou d'une autre avec le monde de la librairie et pourquoi pas avec la formation qui y était dispensée. Alors passons maintenant aux méthodes qui étaient suivies par nos apprentis copistes pour s'exercer. Alors pour les illustrer, je vous propose de partir d'un cas précis, celui justement des chutes de parchemin de la collection de l'IFAO, qui donne un bon éventail des modes, des techniques par lesquelles on cherchait à se familiariser à un style d'écriture jusqu'à ce que ce style devienne une espèce d'automatisme. Autrement dit, quelle méthode ? Eh bien, s'attacher à des lettres ou des groupes de lettres, ou se focaliser sur des éléments de ces lettres, ou partir d'un texte préexistant qu'on recopie. Alors ici, les trois méthodes se combinent. Alors, notre copiste ne s'exerce pas sur des séquences alphabétiques, hein, comme on en trouve dans d'autres exercices, je vous en ai montré à l'instant, mais il répète des lettres isolées, sans subir nécessairement le stimulus d'un texte préexistant. Alors c'est le cas, par exemple, du « mu » et du « nu » que vous avez ici, répétés à plusieurs reprises, « mu » et « nu » qui sont deux lettres qui posent le même problème, c'est-à-dire l'alternance de traits verticaux, pleins, et de traits obliques, déliés, en plus du fait que la première de ces lettres, hein, le « mu », est une lettre diacritique permettant de discriminer les trois grands styles d'écriture calligraphique de l'époque, comme nous l'avons vu, hein, je vous ai montré la semaine dernière des exercices de copiste où le mu était écrit justement dans ces trois styles d'écriture, avec notamment la partie centrale qui pouvait être soit anguleuse, soit arrondie, et selon qu'elle est anguleuse ou arrondie, eh bien, on a affaire à l'écriture, la majuscule biblique ou bien la majuscule alexandrine. Le copiste, pour aller plus vite, combine même ces lettres, comme vous le voyez, il les met en monogramme, c'est-à-dire que le dernier élément vertical du mu ou du nu est aussi le premier élément du suivant. Et quelquefois, comme on vient de le voir, dans des séquences extrêmement longues. On le voit et aussi essayer ici même, on le voit, pardon, on le voit, voyez, ici, essayer d'alterner avec une rapidité croissante, hein, vous le voyez à la façon dont les lettres se resserrent, les verticales et les obliques. Donc mu et nu, mais c'est surtout les omicron et les oméga qui sont le plus fréquemment tracés dans nos six languettes de parchemin, quelle que soit la technique d'entraînement suivie. Alors voyez ici un exemple avec des oméga, omicron, oméga, oméga. Ici, on retrouve des oméga ou des omicron de modules différents. Et voici un cas encore plus frappant, hein, on va dire quasiment que des omicron ou des oméga. Et là, il s'est même essayé de les écrire dans des modules différents. Alors, ces deux lettres, oméga et omicron, comptent parmi les lettres les plus difficiles, hein, malgré leur apparente simplicité, en ce qu'elles réclament du copiste de savoir passer insensiblement pour chaque moitié de lettres du délié au plein. Vous voyez, le délié est ici, le plein est ici, puis du plein au délié, etc., en respectant une courbe parfaitement, sinon circulaire, du moins sans accident. Cela demande une parfaite maîtrise, hein, de la pression et de l'orientation du calame. Alors d'autres lettres, comme le hori, hein, cette lettre copte qui est comme un S inversé, est souvent répétée dans nos textes, puisque justement, elle pose aussi des problèmes similaires d'alternance de plein et de délié, sans toutefois demander la même dextérité. On notera dans ce parchemin la façon dont le copiste combine différentes lettres circulaires en série. Vous voyez ici omicron, phi, qui est aussi une lettre circulaire, oméga, ici omicron, sigma, qui est en fait la moitié d'un omicron, oméga, et ici epsilon, qui est comme un sigma ou la moitié d'un omicron avec une barre transversale, oméga, omicron. Inversement, il peut jouer sur l'alternance de lettres rondes et de lettres à traits verticaux. Hein, c'est le cas ici avec omicron, lettre ronde, nu, lettre avec des traits verticaux, à nouveau lettre ronde, tau avec un trait vertical. Et on a la même chose ici avec le mu, hein, constitué de deux traits verticaux et ensuite de lettres rondes. Alors, dans bien des cas, ce ne sont pas des lettres complètes, mais des segments de lettres que réalise le copiste ou l'apprenti copiste. Dans des séries de la même lettre, il lui arrive fréquemment de laisser la lettre inachevée, préférant en privilégier un élément. Hein, vous voyez ici, on a ici ce qui est sûrement alpha, mais là, il n'a pas fini la lettre, il n'a pas mis le trait oblique, hein, qui permet d'y voir un alpha, hein, puisque ici on a un alpha, et donc c'est probablement ce qu'il a tenté de faire au début. Et on a des séries de traits verticaux, alors on pourrait les interpréter comme des iota, mais étant donné qu'on a souvent des mu et des nu, il est possible, ici vous avez un mu, il est possible qu'il ait voulu écrire un mu ou un nu, et qu'il se soit focalisé juste sur un élément de la lettre, c'est-à-dire le trait vertical, qui ressemble évidemment à un iota. Alors, notre apprenti copiste s'est aussi exercé à tracer des lettres à valeur numérale qu'il a surmontées ou encadrées d'une ligne pourvue d'un épaississement à ses extrémités. Hein. Ce sont là des essais de pagination, hein, que tout copiste était amené à ajouter dans la marche supérieure des folios et qui nécessitait un entraînement, hein, puisqu'il fallait bien réaliser le trait horizontal qui permet de voir dans ces lettres non pas des lettres mais des chiffres,
donc des numéros de pages, et vous voyez qu'on a affaire à une ligne très fine, mais avec les deux extrémités qui sont légèrement épaissies. Et nous avions déjà eu l'occasion de voir des exercices d'écriture de numéros de pages hein, dans cet ostracone de Drabul Naga. Vous voyez exactement cette surligne, exactement réalisée de la même façon, avec un épaississement au début et à la fin. Enfin, notre copiste s'est essayé à des séquences textuelles, donc beaucoup plus longues évidemment que des lettres isolées, des séquences textuelles, mais tout avortées, puisque ce n'est pas le contenu qui comptait pour lui, mais ce sont les lettres qui constituent ces séquences. Alors évidemment, on ne s'étonnera pas, vu le contexte dans lequel on est probablement, c'est-à-dire un monastère, on ne s'étonnera pas de la nature biblique d'un certain nombre de ces séquences, et je dirais même la nature exclusivement vétérotestamentaire de ces séquences, à l'exception juste de la séquence Paulos Papostolos, Paul l'apôtre, qui est peut-être le titre ou l'incipit d'une lettre paulinienne. Sinon, ce sont tous des citations qui proviennent de l'Ancien Testament, et j'ai déjà eu l'occasion à maintes reprises de vous dire l'importance de l'Ancien Testament à cette époque. Hein, on a plus de papyrus vétérotestamentaires qui nous sont parvenus que de papyrus du Nouveau Testament, du fait de la place centrale qu'avait l'Ancien Testament dans la liturgie et aussi la place centrale qu'avait un des livres de l'Ancien Testament, les psaumes. Alors, sur ce parchemin que vous avez à l'écran, eh bien, on a recopié un fragment d'Isaïe 37. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le dernier mot, ça commence par le dernier mot d'un verset, hein, M-O-U, Do. On ne sait pas de quoi il s'agit avant, mais ça commence comme ça, de but en blanc. La fin, la suite, le verset suivant, hein, qui est copié, le verset 26, est tronqué en plein milieu. Voilà. Donc, Do, n'as-tu pas, oui, parlé des choses que j'ai faites jadis? Et ça continue, mais il s'est interrompu. Donc, vous voyez qu'il a copié ces versets d'Isaïe, sans d'ailleurs prêter d'attention à l'alignement des fins de ligne et à la régularité du module des lignes. Vous voyez que là, il a été obligé de serrer la fin du mot en utilisant de petites lettres. Puisque, là encore, j'insiste sur le fait que ce n'est pas la présentation qui l'intéressait, mais la forme, le ductus des lettres. Ainsi, donc, on comprend qu'il ait pu resserrer certaines lettres, ou au contraire, donner toute l'expansion qu'il souhaitait à d'autres lettres. C'est le cas, évidemment, ici du Chai, qui est en lettres beaucoup plus importantes que ce qui précède, et surtout, évidemment, de l'Omicron, ici, qu'il a recommencé après, et de cet Oméga gigantesque sur lequel il s'est entraîné. Voici une autre séquence biblique que l'on retrouve dans ces parchemins. Jérémie 4, 15, hein, la voix de celui qui proclame. Et on retrouve sur le même fragment de parchemin un bout de Proverbe 27, 3, la pierre est lourde, le sable difficile à porter. Mais vous voyez que nous n'avons qu'une partie de ce verset. Alors, un rapide coup d'œil sur le parchemin montre que la disposition textuelle est complètement aléatoire. Hein. Vous le voyez, le copiste a alterné deux fragments appartenant à deux livres bibliques différents, dupliquant certains mots ou segments de mots, sautant des espaces, comme vous le voyez, et décalant les débuts de lignes. Hein. Vous voyez qu'il n'y a pas d'alignement des lignes.
Alors, il est difficile de reconstituer, on va essayer de faire un peu de psychologie scripturale, il est difficile de reconstituer la chronologie des éléments constitutifs de cette page, page entre guillemets. Il pourrait avoir commencé à la ligne 4 avec le verset de Jérémie, donc commencer ici avec le verset de Jérémie. Le premier mot retient son attention, Perhou, retient son attention, notamment justement avec cette lettre, le Hori, qui du fait de son ductus sinusoïdal réclame une certaine dextérité, ben justement, il le répète au-dessus, vous voyez. Et il pourrait avoir ensuite repris la ligne 5 avec un verset des Proverbes, copiant les deux premiers mots sur cette ligne, le troisième à la ligne suivante, en retrait par rapport au début de la ligne 5, puis sautant un espace pour des raisons incompréhensibles, la quatrième, le quatrième mot à la ligne 7. Alors, le début du premier mot, c'est-à-dire « po », est ensuite répété plusieurs fois, vous voyez ici, au-dessus. « Po, 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 po », dans les espaces laissés vacants. Et c'est encore le oméga de « po » qui l'arrête, hein, semble-t-il, à la ligne 1, puisque il, en écrivant « po », il commence à écrire la lettre oméga, et puis il s'interrompt peut-être parce qu'il pensait ne pas avoir bien commencé. Il reprend plus loin, sur la même ligne, laissant encore la lettre inachevée. Vous voyez ici, il a écrit le début du oméga, et puis il s'est interrompu. Puis, sautant un espace, ligne 3, eh bien, il recommence, mais en finissant cette fois-ci la lettre. Po est écrit entièrement. Alors, cette reconstitution de la chronologie de ce fragment est très incertaine. Hein. Il peut très bien aussi avoir commencé par la ligne 1, en butant sur le oméga du premier mot, qu'il répète trois autres fois, puis reprenant l'ensemble, il écrit, disons, la séquence presque complètement. On ne saura jamais ce qui s'est passé dans sa tête. Ce qui importe, c'est de voir ce qui motive, en fait, ses essais. Il est probable que notre copiste choisit les éléments textuels, les versets bibliques, en fonction de ses besoins et de leur nature, on va dire, pédagogique. Les fragments de Proverbe 27.3, enfin, le Proverbe 27.3 est intéressant parce qu'il contient, en peu de lettres, 5 oméga. Vous voyez, sans compter ce qu'on appelle le shai, cette lettre-là, qui est en fait un oméga avec une espèce de queue. Donc vous voyez 5 oméga qui, d'un point de vue graphique, pouvaient réclamer une grande attention de la part du scripteur, et il se serait exercé donc à, comme cette lettre lui posait problème, il s'est exercé avec un verset qui contenait très souvent cette lettre. Alors, à côté des citations bibliques, eh bien, on trouve d'autres séquences qui sont d'une autre nature et qui sont bien curieuses et bien intéressantes. Alors, regardez cette languette de parchemin, toujours du même ensemble des parchemins de l'IFAO. Que voyez-vous écrit ici ? Abrokitondofulax terodzugo kam. Et on retrouve ici, sur d'autres parchemins, cette même séquence. Eh bien, on reconnaît une séquence que l'on a, un vers, qui est cité dans l'Anthologie palatine, vous savez, ce recueil d'époque byzantine de poèmes divers et variés. On retrouve au livre 9, sous le numéro 538 de l'Anthologie palatine, notre vers complet.
abrokiton dophylax, stérozugo campsi metopos. Il porte une fine tunique, le gardien qui courbe sous le joug le front des bêtes sauvages.
Alors, il s'agit d'un vers, d'un hexamètre dactylique,
un vers qui, avec son composé sans fin, pterodugo campsi metopos, son sens un peu bizarre, eh bien, a la particularité de contenir toutes les lettres de l'alphabet grec.
D'où l'appellation que certains modernes lui ont donnée de vers pangrammatique, c'est-à-dire qui contient toutes les lettres,
ou de pangramme, que j'utiliserai dans la suite. Ce qui lui a valu, justement, comme il s'agit d'une espèce de virtuosité, ce qui lui a valu, justement, d'être conservé par l'anthologie palatine, et il est fréquemment attesté en Égypte dans des contextes d'école ou, comme ici, dans des contextes de scriptoria. Souvenez-vous, eh bien, nous l'avons déjà rencontré dans cette page mise au rebut et réutilisée. Ici, regardez, nous avons Abro, qui est juste commencé, la suite n'est pas terminée. L'éditrice de ce texte ne l'a pas identifié justement comme le début du vers de l'anthologie palatine. Comme vous remarquerez que comme dans nos parchemins du Caire, eh bien, on retrouve aussi sur cette page des séries d'oméga. Donc vous voyez, ces textes ont une parenté. On retrouve aussi cette séquence dans ce papyrus que je vous ai montré en début de cours, abrokiton, dophylax, etc., etc. Tout à l'heure, je vous ai montré cette languette qui avait été interprétée par son éditeur comme un signé. Eh bien, que trouve-t-on écrit dessus ? Exercice à la majuscule alexandrine, eh bien, on trouve toujours notre séquence abrokiton, dophylax, stéro, zugo, campsi, metopos. Dans le codex glaciaire que je vous ai montré à l'instant, qu'a-t-on ici ? Abrokiton, dophylax, stéro, etc., etc. Mais vous voyez que notre copiste s'est arrêté sur le psi, camps, qu'il a répété pour en maîtriser les difficultés, et non, comme le propose Paulinus Bellette, qui a réédité ce texte, de façon très romanesque, il pense que c'est l'expression du dédain de la part du copiste, qui aurait laissé cette séquence absurde, inachevée. C'est d'ailleurs exactement ce qu'a fait le scripteur de notre papyrus de Cologne. Si vous regardez, il a répété aussi plusieurs fois le psi, parce que le psi est une lettre qui pouvait poser des difficultés. On retrouve d'autres exemples de ce vers pangrammatique. Je me limiterai ici à des textes de la même ambiance, c'est-à-dire des textes qui participent de la formation de copistes. Regardez ici ces deux ostracas qui sont en passe d'être publiés par Raphaël Acribioré et Jennifer Cromwell, et je remercie Jennifer Cromwell de m'avoir permis d'en parler. Vous voyez ici ce pangramme, et vous l'avez ensuite ici même, et vous remarquerez là aussi que vous avez la lettre mu qui a été probablement campsi ici, il doit y avoir un mu et là encore un mu, donc là encore une lettre qui a été répété. Vous le retrouvez dans cet ostracode qui se trouve au Petri Museum, qui date du 6e, 7e siècle, où la séquence a été écrite dans une majuscule biblique soignée. On notera l'application, je dirais, un tantinet scolaire avec laquelle notre copiste a tracé
les plaints et les délits, vous voyez, qui sont extrêmement contrastés, avec aussi des empattements de certaines lettres ici. Enfin, ce vers a été retrouvé, copié sur une tablette de bois provenant de la cellule du prêtre Élie, ou Élias, qui est un ermitage qui se trouve à une heure de Djémé, donc sur la rive ouest de Thèbes, dont la localisation est malheureusement aujourd'hui perdue. Alors, il faut reconnaître que l'écriture est assez maladroite et n'incite pas à y voir un exercice de copisme, mais plutôt à celle d'un écolier qui se trouverait encore à l'école, hein, sous la férule du grammatiste. Cependant, et c'est là qu'il est toujours intéressant de voir les autres textes qui se trouvent sur le même objet, cependant, notre vers est suivi d'un alphabet en cryptographie, dont on a vu la semaine dernière qu'elle était en usage dans les scriptoria et non dans les écoles généralistes. Aussi me paraît-il plus probable que cette tablette constitue les reliques d'une formation calligraphique suivie par un apprenti qui, là, est encore extrêmement débutant. On a d'ailleurs retrouvé dans la cellule d'Élie d'autres tablettes où ont été recopiés des textes bibliques dans des écritures un petit peu plus confirmées, mais encore hésitantes, qui donnent à penser que l'occupant de cette cellule a pu former des apprentis à la copie de manuscrits littéraires. Alors, sur un autre fragment de parchemin, on trouve le mot murmex. Murmex. On reconnaît le mot grec qui veut dire fourmi. Hein, alors, serait-ce un mot isolé? Il s'est mis à penser à des fourmis, donc il a écrit le mot fourmi. Serait-ce un mot isolé ou appartient-il à une autre citation? Eh bien, un autre vers pangrammatique, conservé, là encore, par l'anthologie palatine, nous donne la solution. Abros den procoais cuclops phton gazeto murmex. Une tendre fourmi se faisait entendre, ô cyclope, à l'embouchure du fleuve. Vers dont le sens alambiqué, et je dirais même très improbable, tient à la difficulté de réunir justement toutes les lettres de l'alphabet dans une séquence qui soit lexicalement et syntaxiquement à peu près acceptable. Nos parchemins offrent la première attestation papyrologique de ce vers, et il est intéressant de constater que ce vers dont nos parchemins attestent l'utilisation pour un entraînement calligraphique en connexion avec l'autre vers, Anthologie Palatine 9538, a été transmis par l'anthologie juste après ce dernier. Et donc vous voyez que ces deux vers avaient donc, dès le 5e siècle, la date de nos parchemins, avaient donc un destin commun. Alors, sur un autre fragment de parchemin, on trouve trois lettres qui paraissent tout à fait anodines. Kna. Elles pourraient passer inaperçues si l'on ne les rapprochait d'une autre séquence célèbre, qui est celle que j'ai mise à l'écran. Knax bictuptes phlegmotrops. Je me suis exercé pour la prononcer. Cette séquence imprononçable est dépourvue de sens. Entre dans la catégorie de ce que les anciens appelaient des kalinoi, des freins. Elle avait l'avantage pour les écoliers de contenir toutes les lettres de l'alphabet. Et de fait, nous savons qu'elle était apprise à l'école pour exercer la prononciation des jeunes sous la houlette du grammatiste, comme nous le dit Clément d'Alexandrie, qui parle à son sujet de hypogrammos paidikos, un modèle pour les enfants. Et comme nous le montre la documentation papyrologique scolaire, j'avais eu l'occasion de vous en parler lorsque je vous avais présenté le papyrus Bruyant 1. Mais tout comme les deux vers pangrammatiques, là, il ne s'agit pas d'un vers. Il s'agit d'une séquence qui a toutes les lettres, mais qui ne constitue pas un vers. Cette séquence a connu un grand succès dans le milieu des copistes. Elle est présente, et là encore, on va retrouver des textes que je vous ai montrés. Elle est présente dans le papyrus de Cologne, que j'ai mentionné déjà plusieurs fois, à côté du vers pangrammatique Abrokiton, Dophylax, Thérodes, Hugo, Campsi, Métopos. On la retrouve aussi dans le papyrus Londres 1102, écrite au verso d'une lettre copte. Cette séquence est précédée, nous dit l'éditeur, de deux essais partiels de la même séquence. Alors, en l'absence de photos dans la publication, je m'appuie sur la description de l'écriture par l'éditeur. Il dit « in fine, square, unchose ». Du fait de cette description, je pense qu'on a affaire non à un exercice scolaire, mais à un exercice calligraphique. Enfin, cette même séquence apparaît sur une tablette de Kélis, de contenu assez hétérogène. Alors, sur une face, celle que vous avez à l'écran, une main a écrit une liste de jours fastes et de jours néfastes dans une écriture documentaire typique du IVe siècle. Sur l'autre face, eh bien, une autre main a recopié le début d'une prière manichéenne, proscuno, cae, humno, encatarais, cardias, etc., dans une majuscule. Pour ce faire, eh bien, le copiste a effacé un texte qui était précédent. Il a effacé partiellement, et donc il n'en reste que le début et la fin. Et voici ce que j'arrive à lire sur cette tablette. Eh bien, je vous l'ai mis ici. Alors, on retrouve donc notre Kalinos. Mais quel rapport notre Kalinos a-t-il avec la liste ici de jours fastes et néfastes et le texte de la prière? Eh bien, jusqu'en 2019, il était difficile de répondre puisque la première édition ne donnait aucune photo de la face B. En 2019, Jan Gardner, à l'occasion de la réédition de la prière manichéenne, en a procuré une photo. On peut alors se rendre compte que le Kalinos a été recopié dans une main calligraphique se rattachant au style de la majuscule biblique en lettres plus grosses et plus appliquées que celle avec laquelle la prière a été recopiée. Compte tenu du caractère littéraire des écritures de cette face, il paraît évident que, contrairement à la face A, eh bien, la face B a été utilisée par une ou deux personnes s'exerçant à l'écriture calligraphique en copiant une prière et notre Kalinos. Alors, cette conclusion est confortée par la répétition de la lettre I. Vous voyez qu'ici, on a trois fois I. Là encore, on retrouve une reduplication de certaines lettres. Mais aussi, ce qui conforte l'hypothèse d'un exercice calligraphique, c'est que vous avez ici, alors ça c'est pas tout à fait visible à l'écran, mais vous voyez que le début de phlegmodros, fle, est écrit dans un style différent. Là, vous avez un style de majuscule biblique avec des lettres bien droites, et là, vous avez un style penché qui se rattache à ce qu'on appelle la majuscule penchée. Alors, d'autres vers présentant les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire toutes les lettres de l'alphabet, ont été en usage dans l'Antiquité, mais n'ont pas laissé de traces dans la documentation, en tout cas après le IIIe siècle, et donc je n'en traiterai pas ici. Alors, ces Kalinoi et ces vers pangrammatiques faisaient office, vous voyez, de modèle pour les exercices d'apprenti-copiste ou les entraînements de copistes déjà professionnels. Ils servaient, je dirais, de prêt à écrire. Nos copistes n'avaient pas grand effort à faire pour les mémoriser puisqu'ils les avaient appris à l'école ou ils servaient à assouplir la prononciation hein, comme nous l'apprend Quintilien. Hein, il ne sera pas préjudiciable d'exiger des enfants de cet âge pour que leur bouche soit plus déliée et leur langage mieux articulé, qu'ils débitent le plus vite possible des noms ou des vers d'une difficulté recherchée, formés d'un enchaînement de plusieurs syllabes qui se heurtent très durement entre elles et qui soient, pour ainsi dire, rocailleuses. C'est ce que les Grecs appellent des kalinoi, des freins. Précaution modeste, mais faute de l'apprendre, on risque de nombreux défauts de prononciation que la persistance aggrave et rend incurable si on ne les élimine pas dès les premières années. Donc c'est les chaussettes de l'archiduchesse, hein, version antique. Alors leur fonction était, évidemment, dans le contexte des scriptoria, était tout autre. Hein, ces kalinoi ou ces verbes pangrammatiques aidaient les scribes à exercer leur calligraphie. Et d'ailleurs, Paulinus Bellette pense même qu'ils pouvaient servir d'examen devant le maître du scriptorium destiné à démontrer l'aptitude calligraphique pour chacune des lettres, une compétence qui devait se traduire dans le contexte d'une ligne de texte littéraire plutôt que par la simple énumération des lettres de l'alphabet. Alors, le fait que ces kalinoi et ces vers pangrammatiques contenaient toutes les lettres permettaient de n'en négliger aucune. Lorsqu'ils arrivaient à une lettre qu'ils souhaitaient travailler tout particulièrement, ils n'hésitaient pas à interrompre la séquence en réitérant la lettre autant de fois qu'ils en ressentaient le besoin, d'où l'inachèvement de presque toutes les occurrences de nos modèles et surtout la répétition de certaines lettres. Alors, ce que je viens de dire des kalinoi et des verbes pangrammatiques, peut s'appliquer aussi aux citations bibliques. Ce sont, à n'en point douter, des versets que l'apprenti puise dans sa mémoire, sans porter attention au sens et à la continuité textuelle. Là aussi, ces séquences sont toutes fragmentaires, hein, vous l'avez vu. On commence avec un bout de verset, on s'interrompt à un autre verset, etc. Et le caractère incomplet parcellaire de ces citations trouve son illustration extrême justement avec le même codex Glazier dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois aujourd'hui. Au-dessus du vers pangrammatique, qu'avons-nous ? La séquence en polois men, qui voudrait dire en grec en beaucoup, c'est tout, ça ne veut pas dire plus, en beaucoup. En polois men. Et puis, avec le men, évidemment, le copiste s'est interrompu, il n'est pas allé plus loin. Le texte est tellement court qu'on a longtemps renoncé à chercher le passage qu'avait en tête notre copiste. Et Schenke, qui a édité le manuscrit, allait même jusqu'à conclure, je le cite, « Peut-être l'énigme est-elle insoluble, ou bien nous dépendons pour en trouver la solution d'un heureux hasard. » Ben, en fait, l'énigme n'est pas insoluble. Il nous faut juste chercher un texte célèbre, susceptible d'avoir été appris par cœur par un individu. Et notamment par un copiste. Eh bien, la solution, elle est là. Je vous propose d'y voir les premiers mots de l'Ad Demonicum du pseudo-Isocrate. C'était l'œuvre d'Isocrate, puisqu'à l'époque, on pensait que c'était d'Isocrate, la plus prisée à l'époque et à ce titre la plus enseignée à l'école du fait de sa nature parénétique, hein, puisqu'il s'agit d'une série de sentences, de maximes et de conseils. En plus, il s'agit du tout début, autrement dit, de ce qu'un élève était le plus susceptible de retenir ou d'apprendre, hein, de même que on trouve très souvent dans les exercices scolaires le premier vers de l'Iliade. Là encore, les souvenirs scolaires de notre copiste ont conditionné, vous voyez, sa pratique calligraphique. On voit donc, à l'instar de ses collègues, notre apprenti s'est exercé à partir de textes qu'il connaît par cœur depuis longtemps et qui lui viennent à l'esprit sans qu'il ait à réfléchir. Il ne cherche pas à écrire des séquences qui fassent sens, car ce n'est pas sur le sens qu'il se concentre, mais sur le tracé de son écriture. Pour focaliser toute son attention sur celui-ci et éviter que le contenu la parasite aux dépens de la forme, il a besoin de ne penser à rien d'autre. C'est donc par une sorte d'automatisme que ces phrases modèles lui viennent à l'esprit, automatisme qui plonge évidemment ses racines dans sa formation scolaire, mais aussi dans les réflexes acquis dans son nouveau milieu, hein, l'atelier de copie où les pangrammes sont de mise, où le monastère, où les textes bibliques sont enseignés, médités, partagés pendant la liturgie. Donc, voyez, examiner de près nos parchemins, en fait, nous font rentrer un peu dans la tête d'un apprenti copiste et nous permettent de mieux comprendre la façon dont il s'y prenait pour acquérir, peu à peu, par d'incessants entraînements, la pratique presque naturelle d'une écriture qui, par sa stylisation poussée à l'extrême et son extrême éloignement des écritures documentaires, était tout sauf naturelle. Alors, jusqu'ici, j'ai présenté l'enseignement de la pratique documentaire et celui de la pratique libraire comme deux filières séparées. Mais était-ce toujours le cas? On doit constater que notre documentation est loin de faire une séparation stricte entre les deux. Les nombreux exemples livrés par les monastères et les ermitages semblent indiquer que l'enseignement qu'on y dispensait concernait à la fois la rédaction des documents et la copie des manuscrits. Mais on pourrait objecter que les moines enseignants ont très bien pu délivrer deux types de formations qui, selon la nature, s'adressaient à des apprentis différents, amenés à se spécialiser plus tard dans l'établissement de documents ou dans la copie de textes littéraires. Et pourtant, pris un à un, les exercices témoignent d'une compénétration de ces deux types de formations. Alors, nous avons déjà rencontré des exercices ou des entraînements où la même personne, semble-t-il, s'est exercée en même temps à des styles documentaires et à des styles littéraires. Hein. Par exemple, cet ostracone pour l'écriture des endossements épistolaires et la cursive penchée, l'écriture des endossements épistolaires et de la cursive penchée, donc écriture documentaire d'un côté, mais aussi ici pour la majuscule penchée, écriture littéraire. C'est aussi le cas de cet ostracone où on a un entraînement à la minuscule et aussi à la semi-cursive penchée, donc pour les écritures documentaires, et à la majuscule penchée pour le domaine littéraire. C'est aussi le cas de cet ostracone pour la majuscule biblique ici, mais derrière aussi, vous voyez la cursive copte documentaire. On pourrait continuer la liste. Il est un fait frappant, nos scribes et copistes ont recours à des textes documentaires en même temps que des textes littéraires dans le même exercice consacré soit à l'écriture des documents, soit à celle des livres. Nous avions vu le cas de ce papyrus d'Heidelberg, un exercice d'écriture comptable, donc minuscule, à laquelle le scribe s'est entraîné avec un texte littéraire, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de l'incipit du psaume 90. Selon le même schéma, le scribe de ce papyrus trouvé dans le monastère de Balaïsa s'est exercé à l'écriture documentaire à partir d'extraits de lettres en copte, mais aussi à partir de bouts de psaumes en copte. Et inversement, cet ostracone de Gourna nous montre un exercice d'écriture libraire qui a recours au texte d'une lettre, donc d'un document. Alors, ces mélanges n'étonneront pas. Hein. Je vous ai dit que les apprentis s'exerçaient souvent à partir de citations qu'ils connaissaient par cœur, sans prêter attention à la nature même de leur contenu et indépendamment du sens qu'elles véhiculent. Et le fait est qu'il en résulte des croisements étranges, où une formule de document est écrite dans un style littéraire et inversement un texte littéraire est écrit en style documentaire. Alors, si je reprends ici l'ostracone de Gourna, eh bien, la lettre est écrite dans un style de librairie, alors que le texte même est un document, tout comme ce papyrus-là, qui est une lettre écrite dans un style de le style de l'ogival ou de la majuscule penchée. Alors, ce dernier cas est cependant un peu ambigu puisque cette écriture pouvait être occasionnellement utilisée pour des lettres. Je vous avais présenté il y a 2 ans une série de 4 ostracas provenant du monastère d'Épiphane. Hein, vous voyez où il se trouve, hein, on est sur la rive ouest de Thèbes. 4 ostracas où l'on s'était, vous en avez 2 à l'écran, où l'on s'était exercé à écrire les premiers vers de l'Iliade, hein, chante déesse, la colère d'Achille, fils de Pélée. Or, dans ces exercices, on s'est exercé à l'écriture cursive, c'est-à-dire l'écriture des documents, celle de tous les jours, en copiant paradoxalement des bouts de vers homériques. On se serait attendu à ce que ça soit avec des extraits de documents que les élèves s'exercent à l'écriture des documents. Mais ce n'est pas le cas. Du fait que Homère ait été si célèbre et certains de ses vers étaient tellement entrés dans la mémoire des jeunes qu'on pouvait les utiliser finalement pour tout, même au sein des monastères. À moins que l'on ait fait exprès de croiser style et genre de texte. C'est ce qu'on serait tenté de penser avec une 5e pièce provenant d'un monastère voisin juste au-dessus, le monastère d'Apa Foibamon. Où, je vous montre l'ostracone, une même personne a copié une paraphrase en prose d'un bout du vers 61 du chant 3 de l'Iliade, ainsi qu'un autre bout d'un vers du même chant 3 de l'Iliade, mais cette fois-ci dans sa version originale, donc versifiée. Or, chaque couple de lignes est écrit selon des styles volontairement différents. Hein, les lignes 1 et 2 sont dans une majuscule inclinée, tandis que les lignes 3 et 4 sont en cursive, hein, comme les autres ostracas homériques d'Épiphane que je vous ai montrés à l'instant. Là encore, on peut être a priori étonné que l'élève se soit exercé à l'écriture des manuscrits littéraires avec un segment d'Homère mis en prose, tandis qu'il a pratiqué l'écriture des documents avec un autre segment, cette fois-ci laissé en vers. Serait-ce de la part du scripteur, comme nous nous l'étions demandé quand je vous avais parlé de ces textes, une façon de faire la démonstration de sa virtuosité graphique en intervertissant délibérément les styles et en montrant ainsi qu'il est capable d'en jouer même à contre-emploi. Et cette interversion n'est en tout cas pas contingente et témoigne d'une conscience aiguë du fait graphique et d'une bonne connaissance des styles d'écriture. Alors ce jeu d'interversion stylistique, se retrouve dans une autre pièce qui, elle aussi est passionnante du point de vue des problèmes de style d'écriture. Il s'agit d'une double tablette de la région thébaine, aujourd'hui conservée à Leyde, que je daterai de l'extrême fin du 7e siècle, peut-être même début 8e. Alors je me focaliserai sur une seule tablette, hein, dont vous avez le recto et le verso à l'écran. Qui est la plus visible. Elle comporte plusieurs strates de texte, hein, les plus anciennes ayant été effacées. Hein, par exemple, ici, vous devinez sur la face A, vous devinez un texte qui a été effacé, que je vous ai mis là, en fait, qui est un texte de nature magique, hein, que l'on retrouve dans les amulettes de ce qu'on appelle le type Bous, qui combine une sorte de déclinaison du nom de la personnalité du décan, Bous ou Boss. Et vous voyez que cette déclinaison se trouve combinée avec des mots magiques, hein, Alila et d'autres, voilà, Liyai, etc. Alors, est-ce qu'on aurait affaire à une amulette ? Étant donné sa taille, hein, 36 cm de long, c'est pas trop confortable à mettre autour du cou. Il me semble incompatible, l'hypothèse amulettique me semble tout à fait incompatible avec la taille de la tablette. On notera, outre l'écriture de ce texte effacé, Je crois que quand on regarde l'écriture du texte qui reste, hein, du texte second, eh bien, on n'a plus de doute sur le fait qu'on a affaire non pas à une amulette, mais à une tablette qui a servi à des écritures d'écriture, alors, des exercices d'écriture. Regardons justement ces textes. On a commencé par deux lignes en copte qui ressemblent à un extrait d'une lettre ou à des bouts de lettres enfilées les uns aux autres. Ce texte est tracé dans une écriture bilinéaire non ligaturée. Alors, je m'explique sur ce thème bilinéaire. Hein. Vous imaginez que chaque lettre s'inscrit à l'intérieur de deux lignes imaginaires, une ligne supérieure et une ligne inférieure. Donc, ça, ce qui donne une écriture majuscule, on va dire. Vous avez une écriture bilinéaire, donc où les lettres ne sont pas ligaturées, qui est typique de l'écriture soignée des documents coptes de l'époque. Dessous, eh bien, vous avez en grec une ligne qui est écrite dans une écriture quadrilinéaire cette fois-ci. C'est-à-dire que vous imaginez quatre lignes. Donc l'œil de la lettre est inscrit, la partie centrale de la lettre est inscrite dans les deux lignes internes, et puis vous avez une ligne supérieure au-dessus, une ligne inférieure au-dessus, qui démarque les éléments qui montent et les éléments qui descendent. Eh bien, c'est ce qu'on a ici avec cette écriture. Vous voyez les éléments qui montent et les éléments qui descendent. C'est une écriture qui est typique des documents de l'époque. Alors, je saute quelques signes tachygraphiques qui sont ici pour passer à la face B. Et la face B, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le début d'une lettre grecque brutalement interrompue dans une écriture bilinéaire, majuscule, très calligraphique, typique, non pas des documents épistolaires, des lettres, mais des livres. Suivent des séquences de lettres en copte qui comprennent aussi quelques mots en grec, et vous voyez que le style est un petit peu différent. Alors, on a une écriture qui est identique ici à la première séquence, à savoir une bilinéaire non ligaturée, typique des documents coptes, à l'exception des mots grecs qui sont écrits dans une quadrilinéaire droite appelée la minuscule. Bon. Et puis, notre face se conclut avec une séquence presque incompréhensible qui se termine avec des lettres répétées, ici. Et il s'agit d'une quadrilinéaire inclinée identique à celle de la deuxième séquence de la face A. Alors, on voit que cette tablette a été utilisée pour des exercices d'écriture par la même personne, le texte étant en copte comme en grec, l'exercice a porté sur les styles. Alors, pour le copte, le style bilinéaire, et pour le grec, le style quadrilinéaire, incliné et droit. Mais il y a une aberration dans ces essais. Pour la troisième séquence, on a utilisé non la quadrilinéaire inclinée, qui était attendue, ici, mais une écriture calligraphique. Donc, pour un texte documentaire en grec, on a utilisé une écriture calligraphique. On pourrait parler d'oxymore graphique. Alors, serait-il une erreur de notre élève en écriture, une erreur dans le domaine d'écriture qui ne s'est pas encore bien dominé? Je ne le crois pas, car les écritures qu'il emploie sont aisées et montrent qu'il a déjà une bonne maîtrise scripturale. L'application d'un style erroné me semble être de même nature que ce que nous avons vu avec les vers d'Homère, mais ici inversé. Dans les ostracas d'Épiphane, on a utilisé un style propre à l'écriture des documents pour un texte littéraire. Ici, bien, c'est le contraire. Peut-être s'agissait-il pour quelqu'un maîtrisant déjà bien les styles d'écriture de, là encore, de dissocier les styles et de dissocier style et nature des textes en intervertissant les combinaisons usuelles, ce qui, s'il réussit, la preuve suprême de sa virtuosité graphique. Cette tablette nous montre en tout cas que quelqu'un qui a appris à écrire le copte, mais aussi le grec, devait, au-delà des lettres, apprendre à maîtriser les styles d'écriture propres à chaque langue et, autant que possible, à l'intérieur de chacune, les styles propres aux principaux genres d'écrit, qu'ils soient littéraires ou qu'ils soient documentaires. Non seulement nos apprentis étaient amenés à se former aux écritures littéraire et documentaire, mais plus étonnant encore, il pouvait apprendre en même temps la tachygraphie. Vous savez, hein, cette écriture rapide, dont je vous parlerai beaucoup plus longuement la semaine prochaine. Eh bien, c'est ce que pourrait suggérer la présence de la tachygraphie dans des exercices d'écriture documentaire que nous avons déjà rencontrés. Hein. Je vous en montre. Voilà, et dans la tablette que nous venons de voir, il y a aussi une séquence tachygraphie. N'essayez pas de la lire, c'est impossible. Alors, un tel mixage ne doit pas étonner. Hein, si les grands ateliers de librairie devaient former des copistes qui se limitaient ensuite à la copie de manuscrits, et si certaines formations spécialisées produisaient des fonctionnaires qui n'avaient aucune raison de s'aventurer dans le domaine de la librairie, eh bien, les milieux monastiques, eux, ne pouvaient se permettre de développer des filières spécialisées et hermétiques. Or, c'est de ceci, des monastères, que provient la plus grande partie de notre documentation, pour des raisons que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, notamment la position des monastères dans le désert, ce qui a facilité leurs fouilles, hein, contrairement aux ateliers ou aux écoles situées en milieu urbain, qui se trouvent maintenant enfouies sous les habitations modernes. Les moines qui s'adonnaient à la pratique de l'écriture devaient être opérationnels aussi bien pour recopier des manuscrits que pour écrire des lettres ou rédiger des documents juridiques en grec ou en copte, à une époque, j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard, où les notaires d'État ont disparu. Et c'est ainsi que le moine Franguet, qui a vécu au 7e, 8e siècle, dont on a découvert les archives dans son ermitage de la région thébaine, eh bien, a passé sa vie à s'exercer ou à exercer les autres, à écrire des lettres et à copier des manuscrits, en plus évidemment de ses activités de tissage. C'est un moine et le tissage est souvent une des activités les moines pratiquaient. J'aurai l'occasion de revenir sur ce personnage très intéressant qu'est le moine Franguet. Une telle situation nous rappelle que les monastères de l'Égypte, de l'Antiquité tardive, à quelques exceptions près, hein, sont loin de ressembler aux grands établissements de l'époque médiévale, mais étaient de plus modestes communautés dont les membres se devaient d'être multifonctionnels. Elle plonge aussi ses racines dans une tradition chrétienne qui favorise l'interprétation entre pratiques littéraires et documentaires. Et donc, on le voit, l'apprentissage des écritures professionnelles est toujours conditionné par la situation socioculturelle. Aussi, l'enseignement professionnel constitue-t-il une clé importante de compréhension des options culturelles et de l'organisation d'une société à un moment donné. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.